L'actualité des Alpes du Sud et le petit Émile n'a toujours pas été retrouvé au Vernet.
Malgré un ratissage méticuleux de la zone hier avec des visites de maisons, de véhicules, des auditions et 12 hectares ratissés avec des détecteurs de métaux, aucune piste pour retrouver ce petit garçon de 2 ans et demi disparu. Depuis samedi, l'enquête prend un tournant désormais plus long.
Prudence face à la chaleur.
Les Alpes d'Haute-Provence sont toujours en vigilance orange canicule. C'est toujours jaune pour les Hautes-Alpes.
Et puis la plateforme de compostage de Sorbier sabotée.
Plusieurs incendies ont ravagé un bâtiment et du matériel technique dans la nuit de lundi à mardi. Le débat autour de l'extension de ce site prend une tournure et le maire Yves Rabas n'hésite pas à parler d'actes de terrorisme.
Une dizaine d'habitants de Saint-Martin-de-Brome évacués.
La tour de l'horloge menace de s'effondrer, il faut donc mener des travaux de sécurisation mais cela coûte cher. 3 années budgétaires pour la commune qui bénéficie du soutien de la Fondation du patrimoine. Météo.
Avec un soleil dominant mais un ciel un peu plus nuageux aujourd'hui, notamment l'après-midi sur le nord du département des Hautes-Alpes, ça ira jusqu'à l'averse, voire jusqu'à l'orage, ainsi que du côté de l'Ubaï. Pour ce qui est des températures, ça ira de 29 à 35 degrés sur les Hautes-Alpes et de 32 à 35 degrés sur les Alpes de Haute-Provence. À la une de l'actualité, donc, malgré un ratissage méticuleux du Vernet, le petit Émile n'a toujours pas été retrouvé.
L'enfant de 2 ans et demi disparu depuis samedi n'a toujours pas été localisé malgré une nouvelle journée de recherche. La zone était bouclée hier et interdite d'accès à toute personne étrangère. Les gendarmes ont mené des opérations de ratissage judiciaire pour rechercher le moindre indice. Au total, 90 personnels de la gendarmerie des Alpes d'Haute-Provence et des Hautes-Alpes, mais aussi une douzaine de militaires. 30 bâtiments du Haut-Vernet ont été visités, tout comme 12 véhicules, 25 personnes ont été entendues et 12 hectares ratissés de façon méticuleuse avec des détecteurs de métaux, mais aucun élément utile à l'enquête pour l'heure. Selon le procureur de Digne-les-Bains, Rémi Avon, ce mercredi, les investigations vont se poursuivre avec un dispositif renforcé.
À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. D'une quinzaine, les enquêteurs sont passés à plus de 20 et la gendarmerie nationale au niveau central a décidé de transformer l'équipe d'enquête en cellule nationale d'enquête. Ce qui permettra à nos enquêteurs de disposer de moyens régionaux et nationaux, notamment scientifiques et techniques, je pense notamment à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, pour pouvoir accomplir toutes les investigations. À cette heure, ce sont près de 1200 appels qui ont été reçus et qui doivent faire maintenant l'objet de vérifications. À titre d'exemple, dans l'après-midi, après signalement de la présence possible d'un jeune garçon ressemblant à Émile dans le département de l'Isère, un camping-car a été contrôlé, une levée de doute a été effectuée, ce n'était pas lui. Seuls les renseignements utiles nous sont nécessaires.
Et si vous avez la moindre information utile, vous devez joindre le numéro d'appel au 04 92 36 73 00. 04 92 36 73 00. L'enquête en recherche des causes de disparition inquiétante se poursuit. Une enquête où il va falloir exploiter toutes les informations récoltées, précise le parquet, avec un temps plus long d'analyse et d'examen. Un accident de la route meurtrier à Saint-Pons, un véhicule a fait un écart, puis plusieurs tonneaux. C'était hier à 15h sur la départementale 900, juste devant l'aérodrome. Il a fini sa course en percutant une autre voiture sur la voie d'en face. Un premier conducteur, un homme de 64 ans, a été légèrement blessé. Malheureusement, son passager de 93 ans n'a pas survécu à l'accident. Une autre conductrice, une femme de 80 ans, s'en est sortie indemne. Et puis une femme grièvement blessée après une chute sur le sentier du pic de la Grésinière à Gap. Le PGHM de Briançon à bord de l'hélicoptère du Chouka 05 s'est rendu sur place hier vers 9h15. La femme aurait chuté sur 50 à 100 mètres selon les premiers éléments. Elle a été transportée sur l'hôpital de Grenoble.
Malgré quelques nuages, la chaleur sera encore bien présente ce mercredi dans nos territoires.
Le département des Alpes d'Haute-Provence est encore en vigilance orange canicule. Quant aux Hautes-Alpes, le territoire est placé en vigilance jaune par Météo France. Pour se préserver, plusieurs gestes, boire régulièrement de l'eau. d'eau, ventiler les pièces la nuit, ne pas pratiquer d'activité physique aux heures les plus chaudes, mais aussi fermer les volets en journée. Une attention toute particulière doit être donnée aux personnes les plus vulnérables.
Tout a brûlé. C'est le désarroi du maire de Sorbier.
Il ne reste plus grand-chose de la plateforme de compostage de sa commune. Un acte de vandalisme dans la nuit de lundi à mardi a totalement détruit le matériel technique et une partie du bâtiment administratif. Ce sabotage ne semble pas être isolé après des dégradations ces derniers mois, alors que la plateforme fait débat, notamment le projet de la structure privée gestionnaire de l'agrandir. Il y en a pour des centaines de milliers d'euros de dégâts, selon le parquet de Gap et le procureur Florent Cruy, qui a ouvert une enquête pour destruction par moyens dangereux et incendie. Elle a été confiée à la gendarmerie de Serres avec l'appui de la brigade de recherche de Gap. Hier, les techniciens d'identification criminelle se sont rendus sur place, clairement en faveur de l'extension de ce site de compostage. Le maire, Yves Rabas, ne comprend pas qu'on puisse en arriver là.
Cette fois, on peut faire un raccourci en disant que tout a brûlé. Je veux dire, là, on n'est plus du tout dans le débat d'idées. Je veux dire, on est dans la destruction, dans le vandalisme, dans le terrorisme, même, on va dire. Ces gens qui se font passer pour des protecteurs de l'environnement, enfin, j'imagine que c'est dans ce cadre-là. Dire là, ils ont mis le feu à la plateforme. Derrière la plateforme, il y a un talus d'herbe sèche. Le feu est arrivé à 2 mètres de l'herbe sèche et ça aurait pu brûler la moitié du bois de Sorbier, et même plus que ça. L'engin de chantier qui était sur place, le plein avait été fait avant-hier. Les pneus et le gasoil, il devait y avoir des flammes de plusieurs mètres de haut, quoi. Ça aurait pu être extrêmement pire, oui, bien entendu. Si avec les conditions de sécheresse et de chaleur qu'on a aujourd'hui, et un petit vent, il n'y a pas d'unité de pompiers qui soit capable d'arrêter ça, surtout en pleine nuit.
Le maire de Sorbier qui n'exclut pas des poursuites judiciaires pour mise en danger de l'environnement par usage d'incendie. Notez que 2 enquêtes ont déjà été ouvertes par le passé à la suite de 2 autres incendies, mais aucune identification n'a été faite à ce jour selon le parquet.
Et puis direction Saint-Martin-de-Brome, où une partie de la population a dû quitter son logement.
10 d'habitants, en effet, de la commune basalpine a été évacuée la semaine dernière. La tour de l'horloge, construite au XIVe siècle et classée monument historique depuis 1921, menace de s'écrouler. Les précisions d'Aurore Valory.
C'est toute l'identité de Saint-Martin-de-Brome qui pourrait s'effondrer. La tour de l'horloge menace de s'écrouler. Coup dur pour la municipalité et son maire, Laurence Despieds, qui a émis un signal d'alerte dès le début du mandat en 2020. Certains habitants voyaient en effet l'édifice se pencher. D'autres avaient même relevé un tassement d'une trentaine de centimètres.
On a un peu douté de notre propre perception, hein, pour être certain qu'il se passait quelque chose et pas être dans quelque chose de fantasmé. On s'est dit qu'il fallait convoquer déjà des spécialistes.
Pas d'illusion d'optique selon les spécialistes, notamment RTM, Restauration Travaux Montagne, qui a constaté une fracturation de l'éperon rocheux sur lequel se trouve la tour. Puis un bureau d'études a livré sans appel ses conclusions en avril dernier.
Le mouvement est en voie d'accélération. On ne sait pas quel rythme, quelle tendance. On ne sait pas dire quand, on ne sait pas dire comment. Donc si on ne fait rien, à terme, la tour et une partie du rocher va s'effondrer.
Une zone dangereuse a été délimitée. Il a donc fallu, la semaine dernière, évacuer 10 d'habitations.
C'est pas une situation facile à vivre. On parle de personnes qui sont installées dans leur domicile depuis toujours pour certains. Il a fallu leur faire des propositions aussi en termes de relogement qui leur conviennent, parce qu'on est dans l'humain. C'est un travail, et je les en remercie, qui se fait avec eux. J'estime avoir été autant accompagnée par eux que moi les avoir aidés.
Ils devraient retrouver leur habitation d'ici la fin de l'automne, après qu'une entreprise ait installé des contre-fiches sur les façades est et nord. Ces espèces de grosses équerres de 10 mètres de haut et 9 tonnes chacune vont soutenir la tour. Des travaux de sécurisation qui seront suivis par un autre important chantier, plus pérenne cette fois, en 2024-2025. Installer des micro-pieux pour conforter la zone. Un mur sera également aménagé sur la partie avant du rocher. Laurence Despieds détaille les travaux dans l'édifice.
On va installer des ceintures à l'intérieur de l'édifice qui remplaceront les ceintures extérieures là momentanément installées. Et ces ceintures intérieures seront complètement invisibles et permettront de stabiliser tout l'édifice, faire une unité en fait entre l'édifice et le rocher.
Des travaux pour un coût d'1,5 million d'euros, soit 3 années de budget pour Saint-Martin-de-Brome. Impossible donc pour la commune de financer seule. La DRAC, l'État, DLV Agglo vont contribuer. Un financement participatif est également en place avec la Fondation du patrimoine. Car tout euro est bon à prendre pour que cette emblématique tour de l'horloge ne tombe pas aux oubliettes.
Merci Aurore, un dossier à retrouver sur Alpe1. Com.
La déviation de la roche de Rame qui revient sur le devant de l'actualité.
Et oui, le gouvernement mise sur une variante plus ambitieuse. Le sénateur des Hautes-Alpes, Jean-Michel Arnaud, a interpellé le ministre des Transports, Clément Beaune, quant à ce sujet. 4 scénarios de déviation avaient été mis sur la table. L'un a été retenu par la municipalité. Il nécessite la construction de 2 ponts, mais pas suffisant pour l'État qui a posé son veto et demande donc l'évaluation d'un 5e scénario. Et Clément Beaune estime que toutes les variantes ont des impacts trop importants sur l'environnement au sein d'une zone classée Natura 2000, que la déviation n'est pas suffisante pour améliorer les conditions de circulation. Quant au sénateur des Alpes-de-Provence, Jean-Yves Roux, il a rencontré le ministre de la Santé avec le maire de Manosque, Camille Galtier. Il a pu aborder la situation des urgences de la cité Giono, dont les fermetures nocturnes et diurnes s'enchaînent. Jean-Yves Roux souhaite faire un point d'étape exigeant sur les raisons qui ont conduit à cette situation dégradée et trouver des éléments d'amélioration.
Et puis on termine, Cyril, avec un mot de sport, du hockey sur glace et le mercato qui se poursuit.
Balint Torvat, la touche hongroise des Diables Rouges de Briançon, avec l'arrivée sur le banc briançonnais du Hongrois Martin Vass, assisté par son compatriote Saba Sekeli. Il aurait été surprenant que l'effectif ne soit pas composé d'au moins un joueur du même pays, et donc c'est chose faite avec Balint Horvat, jeune attaquant international de 24 ans qui n'a connu que la Suède dans sa carrière professionnelle. Une grande partie s'est faite en 3e division, même s'il a eu quelques apparitions dans l'élite du hockey sur glace scandinave. Le voilà désormais donc à Briançon. De leur côté, les Rapaces de Gap ont également annoncé une nouvelle recrue, mais c'est un tout autre profil. Avec la prolongation de Paul Joubert, véritable enfant du pays, le natif de Saint-Pierre-et-Miquelon va connaître à 22 ans sa 7e saison en Ligue Magnus sous les couleurs gapençaises, en constante progression au fil des saisons. Paul est devenu un atout important de l'équipe, assure le club haut alpin.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.